Vous écoutez RTL.
14h03 sur RTL, je suis ravie de retrouver Thomas Hugues, mais plus encore Sidonie Bonnec qui fait son grand retour.
Ah merci, ça fait tellement plaisir de vous retrouver.
Bonjour Christelle.
Bonjour et bonne année.
Merci,
bonne
année à vous. Belle année à vous. Et on est parti pour une heure de curiosité, de découverte et de fantaisie aussi. Et bien sûr, de bonnes vannes. Vous pouvez pas savoir comme vous m'avez tous manqué, et vous particulièrement Thomas Hugues.
C'est vrai ?
Non.
Ah, mais c'est bien ce que je pensais. Première vanne. Il paraît que vous les avez toutes notées. Donc, on va avoir droit à 426 vannes.
Quelques cahiers.
Peut-être pas toutes dans la même émission. Non. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, Sidonie. C'est du bonheur. Et je voudrais aussi en profiter pour faire un bisou à Anaïs Bouton, voilà, qui nous a accompagnés, qui m'a accompagné pendant trois mois.
Je vous ai écouté hein, pendant trois mois. Chaque jour.
On s'en est pas trop mal sorti.
C'était très bien, même. J'ai failli pas revenir.
Bon, alors, vous avez peut-être. D'ailleurs, je crois que Sidonie a trouvé un smartphone au pied de son sapin. Vous avez peut-être vous aussi trouvé un téléphone portable. Parmi vos cadeaux de Noël, on va vous révéler les dessous de la high-tech et tous ces métaux qui sont indispensables à la fabrication d'un téléphone. L'extraction de ces métaux fait souvent des ravages, vous le verrez, ce sera vers 14h30 dans l'émission.
Et tout de suite sur RTL, on démarre bien l'année avec France Gall.
Laisse tomber les filles.
La curiosité est un vilain défaut.
Un jour sans toi qu'on laissera.
Denis Bonnec, Thomas Hugues, sur RTL.
Il y a un an, jour pour jour, France Gall est partie. Elle avait 70 ans. Journée spéciale sur RTL, car ses chansons continuent de nous enjouer et sa personnalité aussi de nous fasciner. Bonjour Jean-Éric Perrin.
Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes journaliste.
Merci de votre accueil.
Biographe, c'est un plaisir. France Gall, c'est ça qui est fascinant avec elle, c'est que c'est pas une star par hasard. Elle a toujours choisi, dessiné son destin. Par exemple, quand elle décide de rencontrer Michel Berger, on est en 73 au printemps, et dans sa voiture, elle entend ça à la radio.
Attends-moi. Plonge tout entière dans ta solitude.
Jean-Éric Perrin, Attends-moi, Michel Berger, qu'est-ce que ça déclenche chez France Gall qui l'entend pour la première fois ?
D'abord, elle s'arrête, elle est très prudente, elle entend la chanson dans la radio, elle s'arrête, elle se gare pour l'écouter avec beaucoup plus d'attention, ce qui est déjà une première manifestation de responsabilité.
Et un bon réflexe automobiliste.
Et ensuite, elle se dit, eh bien voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche, parce que ça fait des années qu'elle voit sa carrière partir en... C'est filoché en quelque sorte.
C'est une grande star, elle a 26 ans,
c'est
déjà
une grande star. C'est une grande star, mais elle ne vend plus un seul disque en fait, puisque depuis la grande époque des années 60, de ses débuts, enfin les 5 premières années à peu près, où elle enchaîne les tubes, où elle vend énormément de disques, elle est une vedette qui est invitée partout, mais en fait elle n'a plus les auteurs et compositeurs qui ont créé sa première carrière, et du coup elle nage un petit peu, elle enregistre des 45 tours, les uns à la suite des autres, qui sont souvent des chansons un peu médiocres, et elle ne sait pas comment se sortir de ce piège, en fait.
Et donc, il y a ce coup de foudre qui est d'abord un coup de foudre, on va dire, artistique, musical,
oui,
quand elle écoute cette chanson signée Michel Berger. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a du caractère, on l'a dit, France Gall, c'est elle qui va l'aborder ?
Alors, elle va profiter d'une émission qui partage dans une radio périphérique, je ne citerai pas le nom, puisque c'est l'autre.
Bon, elle est bleue. Elle est bleue.
Voilà, elle est bleue. Et donc, elle lui met le grappin dessus, elle lui dit, voilà, j'adore ce que vous faites, je veux que vous m'écriviez une chanson. Et lui dit non.
Ça commence pas.
Pourquoi non ? Comment il justifie son refus ?
Parce qu'en fait, il avait très peu envie d'écrire des chansons pour les autres. D'abord, il voulait écrire des chansons pour lui. Et au cas où il accepte d'écrire des chansons pour les autres, en fait, il voulait pas écrire des chansons, il voulait écrire des albums. Et en même temps, en prendre la responsabilité, c'est-à-dire les arranger, les composer, les produire, les réaliser, tout le processus. Et en fait, c'est ce qu'elle voulait aussi, lui. Mais ça tombe bien, justement, c'est ce que je veux. Moi, si vous voulez me faire un album plutôt qu'un 45 tours, je suis ravi, je signe tout de suite. Et ça a été long.
Michel Berger, finalement, après plusieurs rendez-vous, va revenir en 1974. C'est donc un an après leur rencontre, avec une chanson pour France Gall, et ça sonne comme ça.
Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout bas, une déclaration.
Alors là, on assiste au début d'une histoire d'amour. C'est une déclaration d'amour professionnelle.
C'est seulement un coup de foudre artistique là.
Mais en fait, pas vraiment, parce que c'est une chanson qui se destine à lui-même.
Michel Berger,
oui,
qui pour lui.
Il, en fait, il veut pas lui donner. Il va falloir qu'elle se batte pour la récupérer,
encore,
et faire le premier succès donc de sa nouvelle carrière et en même temps signer un espèce de pacte à la fois artistique et amoureux, puisque au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des rencontres, puisqu'en fait, elle allait chez lui, elle le rencontrait pour lui parler de musique, pour en fait le convaincre, parce que elle avait cette image un petit peu has-been, il faut bien dire les choses.
Elle
avait
ça va
cette
vite,
image,
hein, avec
oui,
26,
ça va très,
27
très vite.
Ans, et elle est has-been,
oui, mais avec une série comme ça de disques qui n'avaient pas marché, elle avait une image de voilà un peu de chanteuse des années 60, et on était dans les années 70, donc il fallait passer à autre chose.
Mais là, quand j'imagine Michel Berger qui se met au piano, qui interprète ma déclaration, il tombe amoureux à ce moment-là. Ils sont amoureux au moment où
ils sont devenus amoureux,
c'est
effectivement, parce qu'au fur et à mesure, donc ce que je commençais de vous expliquer, c'est qu'au fur et à mesure de leur rencontre, il y a un sentiment amoureux qui naître entre eux et qui va évidemment aboutir.
Et alors Michel Berger va offrir des dizaines de tubes à France Gall, relancer sa carrière. Il a su aussi découvrir l'autre voix de France Gall, écouter son pianiste pendant plus de 10 ans, Serge Perratonnerre. Il est au micro de Bastien Robin.
France swingait, et je pense que c'est peut-être pourquoi Michel aussi a été intéressé par l'artiste, l'interprète, parce qu'elle swingait. Par contre, lui, il l'a fait chanter de façon différente, il l'a révélée. Parce qu'avant Michel, elle forçait sa voix, elle poussait sa voix. Et Michel, au contraire, l'a retenue, elle a vraiment révélé.
Jean-Éric Perrin, donc Michel Berger lui offre un nouvel amour et puis une nouvelle carrière aussi et une nouvelle voix. Vous racontez son histoire, l'histoire de France Gall dans cette biographie aux éditions GM. C'est de France Gall, de Baby Bop à Résiste. Toute l'histoire de cette incroyable chanteuse. Et dans un instant, on va vous révéler ses débuts, les débuts de France Gall. Il y a, écoutez bien, du piano, du foot, des pubs et même une paire de claques. Restez avec nous à l'écoute d'RTL.
RTL. France Gall. Depuis 35 ans, on m'appelle comme ça et les gens me connaissent par ce nom. Or, mon nom, c'est pas ça, moi, c'est Isabelle Gall.
Tout pour la musique.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et j'ai toujours été contre France. Je trouve que c'était trop dur.
La curiosité est un vilain défaut.
France Gall sur RTL, c'est une journée hommage, un an après sa disparition. France Gall dans la curiosité avec le journaliste et biographe Jean-Éric Perrin. Ben, puisqu'on vient d'entendre dans la mise en onde de notre réalisateur François Touchard cette histoire autour du prénom de France Gall. Donc son vrai prénom, c'est Isabelle, c'est bien ça.
Oui.
Qui choisit France? Ça vient d'où?
Alors je pense que ça vient de son entourage, puisqu'en fait le problème, c'est qu'il y a déjà dans la maison de disque où elle va chanter, qui est la maison Philips, il y a déjà une Isabelle qui est Isabelle Aubray, qui est une chanteuse aussi émergente, mais qui a un gros succès, qui a remporté l'Eurovision l'année d'avant, et donc c'est pas possible d'avoir sur le même label deux Isabelles, donc il faut trouver quelque chose. Je pense qu'il y a une espèce de brainstorming et le nom France sort et c'est comme ça qu'elle est baptisée France Gall.
Alors
c'est quelque chose qu'elle refuse pendant des années.
Oui,
d'ailleurs.
C'est ça, c'est ce qu'elle dit là dans bah,
elle est habituée à son prénom. Si vous on vous appelait Jean-Pierre, tout d'un coup vous seriez pas content.
Parfois on vous appelle Hugues, ça vous plaît pas?
Oui
c'est votre
vrai
nom de famille.
C'est mon nom de famille. je le rappelle hein, à ceux qui en douteraient.
Ah bon?
Mais ça veut dire que il y a beaucoup de gens dans son entourage qui l'appelaient encore Isabelle, ou finalement au
en
fil
fait,
du
dans
temps,
son entourage,
tout le monde
on l'appelait Babou, qui était son Babou, surnom d'enfant,
d'accord.
Et donc
d'accord.
Dans son entourage et jusqu'à la fin, quasiment toujours, les gens de son entourage proche, sa famille, continueront de l'appeler Babou, et elle veut qu'on l'appelle Isabelle. Mais bon, voilà, c'est un petit peu elle a 16 ans à l'époque, elle est entourée par des gens qui sont du métier, donc puis en gros, on lui laisse pas le choix, quoi. On lui dit voilà, tu vas t'appeler comme ça. Et voilà.
Alors France Gall, elle naît le 9 octobre 1947 à Paris, dans une famille de musiciens, un papa très connu. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, on ne se souvient pas forcément que c'est Robert Gall. Qu'est-ce qu'il a produit pour la chanson française et les artistes français?
Déjà, ça remonte plus loin, puisque son grand-père avait fondé les petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Dans sa famille, tout le monde était musicien, organiste dans les églises, ce genre de choses. Et donc son père avait commencé comme chanteur lyrique. Pendant la guerre, il s'était tourné parce qu'il faisait des tournées pour les soldats, il s'était tourné vers la variété, parce que c'était un peu plus simple. Et puis il a vite compris qu'en fait, il était meilleur à l'écriture, et donc il a écrit des chansons, et il a commencé à écrire des chansons pour Édith Piaf, ce qui n'est pas rien, mais aussi pour Hugo Frey, excusez-moi j'ai dit Hugo encore, pour Marie Laforêt,
oui,
pour
oui.
Plein de gens comme ça, et surtout donc son tube, son hit, c'est La Mama pour Charles Aznavour.
Effectivement, La Mama pour Aznavour, tiens on l'écoute quelques secondes.
Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là.
Donc, tube signé du papa de France Gall, Robert Gall. Alors, tout à l'heure, Sidonie, juste avant la pub, nous a promis du piano, du foot, des pubs et une paire de claques. Alors,
vous voulez quoi, là ?
Ben, je commence par le piano, on va faire ça dans l'ordre. C'est quoi ? C'est son premier instrument, le piano ?
Oui, à 5 ans, elle commence le piano, parce que dans sa famille, tout le monde, évidemment, joue de la musique. Elle a deux frères aînés, deux frères jumeaux, qui jouent de la guitare. Donc, après, elle va se mettre un petit peu à la guitare aussi. Ils vont faire un groupe à l'époque, ils jouent dans la cave, ils veulent jouer dans les surbouts, enfin, ce genre de choses. Ça n'ira pas plus loin que ça, mais elle commence évidemment très tôt à taquiner les touches.
Et elle taquine aussi le ballon France Gall. Je découvre ça dans votre biographie aux éditions GM,
Jean-Éric Perrin. Elle était super forte en foot. Oui, parce qu'en fait, son père donc, était fan de football et comme la famille habitait dans le coin de la Porte Dorée, donc à proximité du bois de Vincennes, le week-end, tout le monde allait jouer au foot. Et en fait, elle était très très forte. Elle a même été élue meilleure footballeuse de son lycée. Enfin, tout sexe confondu. Donc, elle avait des dons. Quoi.
Elle est restée fan toute sa vie ?
Oui, elle regardait les matchs à la télé. Ouais,
on passe vraiment du coq à l'âne. Du foot au pub. Elle a fait de la pub, on la voyait à la télé, France Gall, avant de l'avoir chantée sur scène.
C'était surtout des pubs, parce qu'à l'époque, c'est une époque bénie où la presse papier était très, très importante, et c'était surtout des pubs pour les magazines. Donc c'était des choses destinées à son public, c'était des pubs dans le journal Salut les copains, où on la faisait poser pour des vêtements, pour des produits de beauté,
elle
ce genre
ça,
de choses.
Être une égérie, France Gall, toute jeune, comme ça.
Non, ça ne l'intéressait pas du tout, d'autant plus qu'elle ne touchait pas les sous, puisqu'ils étaient bloqués jusqu'à 21 ans, donc elle faisait ça.
À l'époque, c'était 21 ans, la majorité.
Comme ça, ouais. Donc voilà, elle faisait ça, ça faisait partie de son métier, quoi, de son jeune métier, ça, signer des cartes postales, etc. Quoi.
Est-ce que la jeune Isabelle France Gall était une adolescente un peu bêtisière ? Est-ce qu'elle a fait subir quelques frasques à ses parents ? Il y a une histoire de fugue,
je vois où vous voulez en venir, ouais. Effectivement. Pendant des vacances à Noirmoutier, avec toute sa famille, où ils étaient allés en caravane, elle avait fait le mur avec ses frères pour aller dans la boîte du coin où il y avait un concert de Vince Taylor et il y avait surtout un concours de Madison qui était une danse joyeuse que vous n'avez pas pratiquée parce que vous êtes tous trop jeunes.
Vous rigolez, j'ai dansé le Madison un nombre
merci
de fois.
Merci de faire les vannes à ma place, Jean-Éric Perrin.
Et donc elle a gagné ce concours parce qu'elle dansait, évidemment, elle dansait bien. Et donc quand elle est rentrée chez elle, évidemment, c'était motus. Il n'était pas question de révéler au paternel qu'ils avaient fait la fête la nuit. Sauf qu'il y avait la presse locale qui a fait une photographie de la remise de la coupe à la gagnante du concours. Et c'était paru dans le journal local le surlendemain. Et comme tous les matins, en prenant son petit déjeuner, Robert Gall, de papa, donc ouvrait le journal local. Il a eu la surprise de voir sa fille ayant fait le mur, ayant été faire la fête en boîte de nuit. À l'époque, elle devait avoir 14 ans.
Et elle ne s'est pas pris de paire de claques, évidemment, parce que c'est un bon papa, Robert Gall. En tout cas, cette paire de claques, elle a quand même existé. Mais avant, écoutez le premier 45 tours de France Gall. Vous allez comprendre après la claque. Sois pas si bête, c'est le premier 45 tours de France Gall. On est dans les années 60, en 63.
63.
63. Jean-Éric Perrin, pourquoi elle se prend une paire de claques, France Gall ? Elle cartonne avec son premier 45 tours. Qu'est-ce qui ne va pas revenir à son producteur ?
Elle fait une interview, elle est donc toute jeune, adolescente encore. Elle fait une interview où l'intervieweur lui demande « Mais vous allez faire ça longtemps ?» Et elle répond avec toute la candeur de son innocence « Je pense faire ça pendant 4 ou 5 ans, puis après je vais arrêter. » Et donc son producteur, qui était un monsieur important du métier du disque,
Denis Bourgeois la prend
à part et lui retourne une paire de claques en lui disant mais jamais tu recommences pas à dire ça, tu es là pour faire une carrière, donc tu n'as pas à donner ce genre d'argument. Quoi.
Mais
donc, voilà.
On va découvrir grâce à vous dans quelques instants le caractère de France Gall, ce côté patronne qu'elle a eu pendant toute sa carrière. Ça naît à ce moment-là parce que là elle subit deux trois petits.
Mais
ça
naît effectivement de frustration au tout début de cette carrière. Parce qu'il y a l'histoire de la paire de claques. Après, elle va participer donc, à une émission de Jean-Christophe Averty, qui avait un caractère un petit peu aussi sanguin. Et elle le voit retourner aussi une paire de claques à une chanteuse qui la traite, en la traitant de gourdichotte, je crois, une insulte de l'époque. Voilà, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce métier ? Où est-ce qu'on m'envoie ? Après, elle a d'autres expériences un peu douloureuses, dont une avec un intervieweur célèbre qui la piège un petit peu, M. Bouvard. Donc voilà, elle se dit, mais où est-ce que je mets les pieds ? Je veux pas ça, moi.
Ouais, elle se laissera pas faire. Et assez vite, dès l'âge de 17 ans, elle fait même passer des castings. Comment vous dire à un monsieur qui s'appelle Serge Gainsbourg, qui a une trentaine d'années. Ça marchera pas, c'est pas possible. On va vous raconter ça dans un instant sur RTL. À tout de suite.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Dans la curiosité face A et face B, comme on adore le faire sur RTL.
Faites
avec
la
le
face
journaliste.
A et je fais la face B, c'est
allez,
ça
avec plaisir.
Allez,
avec le journaliste, notre invité et biographe Jean-Éric Perrin, et romancier aussi. On découvre qu'elle n'est pas en fait devenue une star par hasard, et c'est ça qui est intéressant. Elle a su choisir, écouter tous les hommes de sa vie. Ça commence par son papa Robert Gall, il y a Michel Berger, et entre les deux, Serge Gainsbourg. D'ailleurs, comment se passe leur première rencontre à tous les deux?
En fait, elle est chapeautée donc par son père Robert Gall, par Claude Bourgeois qui est son producteur. Voilà, il y a un petit entourage autour d'elle, et elle est ni auteur ni compositeur évidemment. Et puis en plus, c'est une époque où les chanteurs ne sont pas auteurs-compositeurs. Ils chantent, on leur apporte des chansons, ils chantent. Donc en fait, on lui propose quantité tous les auteurs-compositeurs de la place de Paris. Enfin,
ah,
du moment,
dans le bureau comme
il
ça,
défile
des
un petit peu. Enfin, il y a des pas tous les après les autres quand même, mais disons que voilà. En fait, son producteur Claude Bourgeois est un de ceux qui avait découvert Serge Gainsbourg, donc quelques années auparavant, et donc voilà, la connexion se fait facilement. Et à cette époque-là, donc Gainsbourg a envie d'écrire pour un autre public et pour d'autres interprètes que ses interprètes habituels, c'est-à-dire Juliette Gréco, des gens comme ça, la chanson plutôt rive gauche et un peu intello. Il veut se frotter justement à la nouvelle génération,
donc il est reçu
et ça se passe, c'est vraiment à l'ancienne quoi. Il y a un piano, vous êtes dans une salle, ouais. Et puis en face vous avez les gens qui vont chanter et produire, et puis voilà, vous faites la chanson.
Et France Gall est face à Serge Gainsbourg à ce moment-là. Elle l'auditionne en quelque sorte, Serge Gainsbourg.
Oui, alors, bon, elle a pas, c'est pas elle qui a
elle a pas
le final cut non plus. Ouais. C'est pas elle seule qui décide. Mais effectivement, elle va s'en rendre compte que ce que lui propose Gainsbourg est d'une qualité nettement supérieure à ce que lui propose beaucoup d'autres de ses auteurs-compositeurs.
Mais Serge Gainsbourg, à l'époque, il a 33 ans, je crois. Est-ce que c'est une star?
Non, pas
non,
du tout.
C'est un auteur.
Il est tout à fait obscur. Ouais, il a fait quelques albums, mais qui n'intéresse qu'une petite poignée de gens. En fait, il va devenir une star au moment où il va faire du reggae, donc ouais. Avant c'est un auteur confidentiel.
Et il a l'air de quoi? Quelle est son attitude face à France Gall? Elle va s'en souvenir longtemps de cette première rencontre avec Serge Gainsbourg dans
Il est comme il était dans la vie, c'est-à-dire quelqu'un de foncièrement timide, maladroit, gauche, mais en même temps génial. Donc voilà, il arrive, il propose des chansons, et en fait les chansons qu'il va lui proposer pendant donc cette première période, il va en faire 9 pour elle dans cette première période, puis après 2 autres un peu plus tard, mais bon, que personne ne connaît, donc c'est pas grave. Mais c'est des chansons qui sont totalement différentes, et évidemment musicalement elles sont très fortes, mais aussi elles sont tout à fait à l'opposé de l'esprit de ce qu'on lui fait chanter habituellement. C'est quelque chose d'un peu nunuche, un petit peu fleur bleue, et lui c'est des chansons déjà très cyniques, n'écoute pas les idoles.
Tiens,
ce genre de choses.
Elle raconte quoi cette chanson, N'écoute pas les idoles? Quels conseils donne-t-elle France Gall à travers cette chanson?
En fait, toutes ces chansons de Gainsbourg pour France Gall sont justement des chansons un petit peu désabusées comme ça, qui prennent le contre-pied de cette espèce d'ambiance très... très fleur bleue du début des années 60, où voilà, quand on est une jeune fille, on chante des histoires d'amour, mais qui sont toujours très chastes, très... Mmh. Elle va chanter des chansons comme Je me marie en blanc, des choses comme ça. C'est toujours des chansons autour d'un univers amoureux, mais c'est toujours très, très, très prude, en fait. Mmh. Et lui prend le contre-pied de ça, et à chaque fois, il lui fait chanter les désillusions qui vont arriver, les erreurs, les doutes, tout ce genre de choses. Donc c'est effectivement très intéressant.
Est-ce qu'elle aime toutes ces chansons? On tient par exemple le sacré Charlemagne.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Bon, là on n'est pas dans la grande dénonciation politique quand même. Est-ce qu'elle aime cette chanson, France
Gall? Elle la déteste, mais d'une force que vous pouvez imaginer. Au point que 2 jours avant la sortie, elle va prendre son téléphone, elle va appeler la maison de disque en disant bon, c'est pas possible, on arrête tout. Je veux que vous me mettiez ces 45 tours à la benne parce que je veux pas que cette chanson sorte.
Mais elle a pas de bol, France Gall, ouais, c'est un énorme succès.
Ça va être un de ses énormes succès, oui, bien sûr, absolument. Mais elle déteste ça parce qu'à l'époque, elle a déjà, bon, elle a quelques années de plus, c'est une jeune fille. Elle a des préoccupations de jeune femme, quoi. Et on la force à chanter comme ça un 45 tours. Enfin,
on la ramène à l'école.
45 tours, oui, pour les enfants, parce que sur le même 45 tours, il y avait une chanson sur Nounours, voilà. Et elle a pas envie de ça. Elle se dit, mais je vais être, d'abord, c'est nul, je vais être grotesque vis-à-vis de mes des autres chanteurs de ma génération de chanter pour le CM2, quoi.
Mais heureusement, il y a Gainsbourg qui revient en 65. Elle va gagner l'Eurovision, France Gall, grâce à cette chanson.
Ça se passe l'Eurovision, est-ce qu'elle s'attend
très très mal.
Voilà, ça c'est une bonne réponse. Merci, à tout de suite la pub. Non, elle s'attend à gagner ou au contraire
pas du tout, elle est sûre de perdre puisqu'en fait les musiciens et le jury lui donnent la dernière place en fait. Parce qu'en fait à cette époque-là, l'Eurovision, on est encore dans des choses très langoureuses, très mièvre. Voilà. Et puis elle arrive donc avec cette orchestration en fait par Gainsbourg où c'est une espèce de cavalcade comme ça, c'est très très puissant. Et donc les musiciens interprètent, lisent la partition, elles disent mais c'est nul, pourquoi on n'a pas envie de jouer ça. Et puis le public lui met un zéro pointé, donc elle se dit bon bah voilà, j'ai chanté ma chanson, puis après je vais aller au bar. Et entre temps, le public par contre qui vote, lui a vraiment flashé sur cette chanson et les votes arrivent en masse. Elle se retrouve première alors qu'elle est au bar avec son attaché de presse en train de boire des coups en disant de toute façon, comme je suis la dernière, on va reprendre le train puis on va rentrer à la maison, quoi.
Et on n'oublie pas qu'elle représentait le Luxembourg avec cette chanson, hein, et pas la France.
Gall, une voix, une beauté à fossette, des chansons formidables et un caractère bien trempé. On vous raconte dans un instant pourquoi dans les coulisses on l'appelait la patronne. C'est tout de suite sur RTL.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
France Gall est dans l'œil de notre curiosité, dans notre oreille surtout. Enfin, nos oreilles, on en a toujours deux. Hein. On ne les a pas perdues à l'occasion des fêtes. Et on raconte le destin de France Gall. C'est une journée spéciale sur RTL.
On va faire le point de toute votre anatomie, on va s'arrêter là.
Hommage, non, on s'arrête là, je pense que ça suffit. Avec le journaliste et biographe Jean-Éric Perrin, je rappelle que vous publiez de Baby Bop à Résiste.
C'est GM Édition.
Aux éditions GM. Alors, le caractère de France Gall, on va consacrer du temps à ça parce qu'on on a décrit une toute jeune artiste qui, forcément, à 16 ans, se fait imposer un certain nombre de choix. Le choix de son prénom, elle s'appelle Isabelle, mais pour tout le monde, elle va devenir France Gall. Le choix d'auteur, compositeur, elle n'a pas vraiment ce mot à dire. Elle prend cette claque de son producteur parce qu'elle répond mal à une interview avec des journalistes. Et ce caractère, on peut le dessiner notamment dans son rapport avec le cinéma. Je voudrais que vous nous racontiez une anecdote qui concerne le réalisateur, le dramaturge Robert Hossein. Comment ça se passe avec lui?
Alors déjà, pour revenir sur le caractère, dans sa famille, on l'a surnommé le petit caporal. Donc déjà, c'était un signe et à partir de 5-6 ans, on l'a appelé comme ça. Ouais. Et en fait, le cinéma, c'est quelque chose qu'il n'a jamais tenté, à l'inverse d'autres de ses consoeurs. C'était vraiment pas son truc, elle n'avait pas envie. Mais forcément, avec son niveau de notoriété, les gens essayaient quand même de lui dire, mais ça serait bien si tu étais un peu sur le grand écran. Et donc un jour, Robert Hossein vient lui proposer un rôle et elle le reçoit, elle était en train de cuisiner, de faire une sauce un peu compliquée.
Genre donc, une béchamel, je crois.
Une béchamel, qui nécessite un certain doigté.
C'est important, la béchamel.
Hein. Moi, j'y arrive pas personnellement. Et donc, voilà, elle le reçoit. Il était un petit peu en retard parce qu'il devait arriver plus tôt. Et entre-temps, elle avait lancé sa béchamel. Et donc, en fait, elle ne calcule pas une seconde. Elle est en train de remuer sa cuillère dans le truc. Et
lui, il essaie de lui dire.
Il lui propose un rôle dans un film, etc. Et puis, finalement, ça ne va pas se faire parce que, voilà, elle lui dit, mais non, ça ne m'intéresse pas. Elle a toujours refusé. Elle a fait quelques brèves. Elle a joué dans un vague téléfilm que personne n'a vu à l'époque.
Mais sinon, elle a refusé beaucoup de rôles ou de projets cinéma comme
pas
ça.
Énormément, parce qu'on a très vite su que ce n'était pas son envie. Mais effectivement, au début, quand elle commence à être célèbre, on va lui proposer des rôles, comme on a pu en proposer à Sylvie Vartan, à Françoise Hardy. Enfin, voilà, elles ont toutes, à un moment donné, joué une fois ou deux au cinéma. Quoi. Mais elle n'a même pas été jusqu'à là une fois ou deux. Quoi.
Alors, France Gall, qu'on surnommait le petit caporal dans sa famille, la patronne aussi dans le métier, on l'a même dit. Capricieuse, vous savez pourquoi elle avait cette réputation, Jean-Éric Perrin?
Parce qu'effectivement, elle n'avait pas sa langue dans sa poche et elle avait tellement, entre guillemets, souffert donc, de cette première partie de carrière où elle était très jeune et on lui imposait des choix qui n'étaient pas les siens et surtout de chanter des chansons qui ne lui plaisaient pas, qu'à partir du moment où elle était plus adulte, elle était en mesure de faire elle-même ses propres choix, elle a décidé de plus jamais se retrouver dans ce genre de situation. Donc voilà, elle a tenu les rênes jusqu'à la fin de sa carrière et de sa vie pour faire ce qu'elle voulait faire et voilà, et décider elle-même de ses choix à la fois artistiques, par exemple d'être aussi assez absente des médias pendant assez longtemps, voilà, d'arrêter sa carrière quand elle était au top. C'est ses propres choix, donc voilà, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait.
Alors le caractère de France Gall, on a aussi demandé à Serge Perratonnerre, son pianiste, l'un de ceux qui a travaillé le plus longtemps avec elle, de nous dire ce qu'il pensait justement de ce mot capricieuse.
Capricieuse, bah, je sais pas, c'est peut-être pas le mot. Elle était exigeante dans sa profession, puis elle avait son tempérament, voilà. Après les concerts, on allait dîner, restaurant, elle choisissait le restaurant, etc. Bon, c'est elle qui décidait qui s'asseyait là, à côté de qui et quoi. Viens côté de moi. Ah bon, d'accord, aujourd'hui c'est moi, machin. Et puis elle allait même en cuisine. On lui présentait un plat. Non, pas les carottes, faut pas les présenter comme ça. Elle allait voir le chef en cuisine à 1h du matin. Bon, voilà, c'était la patronne.
La patronne, ça veut dire qu'elle avait une bande autour d'elle, des gens qu'elle aimait gouverner peut-être pas, mais en tout cas fédérer. Est-ce qu'on peut dire ça de France Gall?
Oui, parce qu'en fait, pendant toute cette période donc avec Michel Berger, c'était vraiment un fonctionnement presque comme un groupe de rock, quoi, en fait. C'était une bande. Alors, de temps en temps, il y avait un musicien qui changeait, mais enfin, globalement, c'était une espèce de noyau comme ça qui durait et qui a persisté à travers différents albums et différentes scènes qui ont suivi les albums. Donc, effectivement, au sein de cette petite organisation sociale, elle était la seule femme, comme dans sa famille, elle avait été la seule femme avec deux frères, enfin la seule fille avec deux frères aînés. Et donc, voilà, il fallait qu'elle mette qu'elle affirme son pouvoir, puisqu'elle était le centre de l'action. Donc, et ça, elle le faisait très bien.
Jean-Éric Perrin, une artiste comme France Gall, c'est évidemment une voix, des choix, des hommes, des femmes, la scène, mais aussi un physique. Elle a changé de couleur de cheveux, par exemple. Elle était brune, elle est devenue blonde. Oh, moi, j'adore les brunes aussi.
Ça
ne regarde que moi, mais.
Moi, je préfère les blondes platines.
C'est elle qui a décidé de devenir blonde. Est-ce que c'est un choix qu'elle a fait dans sa carrière?
Alors,
France Gall,
il faut savoir que plus jeune, avant de commencer, elle a été comme toutes les filles à peu près de cette génération-là, fan de Brigitte Bardot. Donc elle s'habillait en Brigitte Bardot. L'impact de Bardot à la fin des années 50 en France était phénoménal. Toutes les filles voulaient ressembler à Bardot. Donc elle avait eu cette période-là aussi. Elle, avant de chanter, elle avait été comme toutes les filles, fan de Bardot, avec la choucroute et les robes Vichy et tout l'attirail, quoi. Donc après, effectivement, sur son premier 45 tours, elle est châtain, sa couleur naturelle. Et puis elle va passer au blond et elle va rester au blond toute sa vie.
Il y a une histoire de grain de beauté aussi, c'est notre journaliste Bastien Robin qui en met dans plein de photos. Il a bien bossé en mettant des photos de France Gall sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Il dit, c'est bizarre, elle a perdu un grain de beauté.
Oui, elle avait un faux grain de beauté. Bah, c'est comme Mademoiselle de Merteuil, on lui collait une bouche comme ça.
Tout simplement,
oui. Sur ses premiers 45 tours, elle a toujours ce grain de beauté. Puis effectivement, quand elle commence à prendre les rênes, elle dit, ça commence à bien faire votre histoire de grain de beauté. Il est faux, donc on va pas le mettre, donc voilà, quoi, ça s'arrête.
Est-ce qu'il y a plusieurs périodes artistiques dans la carrière de France Gall? Parce qu'on décrit une patronne qui fait des choix, donc on a vu les années yéyé avec Gainsbourg, ensuite le changement Michel Berger. Il y en a d'autres après?
Non, il y en a un en fait entre les deux, qui est justement cette période des années 70 où elle est sa carrière est en déshérence totale, où là ça part un peu dans tous les sens. Elle va faire des chansons un peu brésiliennes, elle va refaire des chansons sur le cirque, qui est à peu près aussi bête que Sacré Charlemagne. Enfin, voilà, donc c'est une période comme ça un peu floue. C'est pas qu'elle se cherche, c'est comme elle n'est pas elle-même auteur-compositeur, elle est obligée de prendre ce qu'on lui livre, quoi, et on lui livre pas des choses faramineuses, quoi.
D'autres hommes de la vie de France Gall à venir dans la curiosité. Après Michel et Serge, Claude et Julien. De l'amour, encore de l'amour dans la curiosité. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va autopsier votre téléphone portable. Vous verrez, la planète fait beaucoup de sacrifices pour qu'on puisse passer quelques coups de fil. A tout de suite sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
La une, la disparition de France Gall. La chanteuse s'est éteinte ce matin des suites d'un cancer. Interprète très populaire qui a marqué les années 70 à 90.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le paradis blanc.
Journée spéciale sur RTL France Gall. France Gall qui a toujours fait le premier pas professionnel et amoureux. C'est ce qu'on apprend avec notre invité, le journaliste, romancier, biographe Jean-Éric Perrin. Comment elle rencontre ces autres hommes de sa vie? Il y a Claude François et Julien Clerc. Tiens, on commence avec Claude François.
Oui, parce qu'on, comme ça on va faire dans l'ordre, ça va être plus simple. c'est simple, elle va le voir à l'Olympia. Elle est déjà une vedette, donc en tant que vedette, elle a accès au backstage, aux coulisses. Et en fait, quand elle le voit sur scène, elle a un coup de foudre. Donc elle va dans les backstage, elle va se joindre à l'aéropage de jeunes filles blondes blondes qui sont là, et puis elle va les pousser un petit peu en disant attendez, c'est moi la Prums. Et en fait, elle, voilà, elle va, elle a eu un coup foot. Oui, ça va marcher, oui, puisqu'il va y avoir une relation assez houleuse, mais qui va durer quand même quelques années entre elle et Claude François.
C'est elle qui quitte ou c'est Claude François?
Alors, c'est un peu les deux. Finalement, c'est elle, effectivement, qui le quitte, parce que la relation était vraiment très difficile. Le fameux soir de l'Eurovision, quand elle l'appelle pour lui dire formidable, j'ai chanté pour toi, etc., elle lui dit t'as gagné, tu m'as perdu, quoi. Quelque chose comme
il
ça.
Il est jaloux.
Il est jaloux, quoi.
Il est jaloux, il est un peu pervers narcissique, comme on disait pas ça à l'époque, mais voilà, il est très jaloux, il est d'une jalousie maladive, alors que lui, de son côté, il n'est pas d'une fidélité exemplaire. Mm-hmm. Et en fait, il lui fait un enfer pendant les quelques années où ils vont être ensemble.
Je crois que c'est dans le film Podium, il y a une scène qui est complètement dingue, après l'Eurovision, où elle revient, elle dort,
oui,
quasiment
absolument
devant la porte. Elle,
oui,
c'est
tout
vrai
à fait,
ça,
tout à fait. En fait, après l'Eurovision, comme elle a gagné, elle est censée, on l'a invitée avec sa famille à faire, je sais pas où, un tour à Venise. Enfin voilà, elle est censée faire participer au repas, au dîner, à tout ce genre de trucs. Et en fait, elle, après ce fameux coup de téléphone à Claude François, elle prend le train sans dire rien à personne, elle prend le train de nuit, elle arrive devant sa porte, elle sonne, elle dit c'est moi, c'est moi, et il refuse de lui ouvrir, elle passe la nuit devant sa porte, sur son paillasson.
Julien Clerc, elle va le rencontrer de quelle manière, en quelques mots?
De la même manière, en fait, elle va voir R, la comédie musicale, ouais, dans laquelle il joue. Elle a un coup de foudre, donc toujours pareil, le même système, elle a accès au backstage, donc elle va le voir, elle va tous les soirs, et puis de là naît aussi une idylle.
Et elle le quitte pour Michel Berger.
Elle le quitte pour Michel Berger.
Toute l'histoire de France Gall à découvrir dans votre très belle biographie. France Gall de Baby Bop à Résis, c'est aux éditions GM, Jean-Éric Perrin. Et puis vous publiez un roman aux éditions Seriouche Publishing, pardon mon anglais, toujours aussi magnifique.
Vous n'avez pas travaillé pendant
les meutes blanches. Écoutez mon bon français, on ne peut pas tout faire. Nourrir
merci
un enfant et bien parler anglais.
Merci,
non,
merci beaucoup, à vous, Jean-Éric Perrin.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.